Deutsche Welle. Vue d'Allemagne.
Le développement du numérique, que nous appelons de nos voeux, doit se faire au service de tous les citoyens. Personne ne doit être exclu.
La neutralité du net, c'est fini aux États-Unis. C'est pourtant un enjeu majeur pour un accès libre et équitable à l'information dans le monde numérique. Un sujet qui était au cœur du Forum mondial des médias de la Deutsche Welle. En deuxième partie de ce magazine, nous reviendrons sur le phénomène inquiétant de la radicalisation dans les prisons, et notamment en Belgique, où un individu a assassiné 3 personnes au mois de mai au nom du groupe État islamique. Vous écoutez Vue d'Allemagne, willkommen et bienvenue. La nouvelle est passée inaperçue sur fond de sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un, mais ce lundi 11 juin, les États-Unis ont officiellement enterré la neutralité du net. Ce principe fondateur d'Internet garantit une égalité de traitement pour tous les contenus sur la toile. Explication de Tejas Narechania du Centre Berkeley pour la loi et la technologie et ancien conseiller de la Commission fédérale des communications.
La neutralité du net, c'est l'idée que chaque contenu peut être délivré à un consommateur de manière égale, que les fournisseurs d'accès, des sociétés comme Comcast, AT&T ou Verizon, ne puissent pas décider quels contenus sont délivrés à leurs clients plus rapidement ou avec une meilleure qualité.
La Commission fédérale des communications, FCC en anglais, avait sonné le glas de la neutralité du net il y a déjà 6 mois, après des années de protection sous l'administration Obama. Ce 14 décembre 2017, les 5 commissaires ont voté, à 3 voix républicaines contre 2 démocrates, pour la levée des règles qui empêchent par exemple un fournisseur d'accès de faire payer plus cher à ses abonnés le fait de regarder des vidéos sur Internet, une activité qui utilise un volume de données plus important que la simple consultation d'un site. Alors que le président de la commission, Ajit Pai, a assuré restaurer la liberté d'Internet, ses détracteurs estiment que cette mesure signifie la fin d'Internet tel que nous le connaissions. La décision américaine risque-t-elle de faire tache d'huile? Les pays de l'Union européenne sont pour l'instant à l'abri. Ils ont adopté en 2016 une loi qui défend le principe de neutralité. Les fournisseurs d'accès à Internet européens n'ont donc en principe pas le droit de limiter l'accès des internautes à des contenus en termes de coût ou de vitesse de connexion, quel que soit le volume des données et le type d'appareil utilisé. Tout comme aux États-Unis, les opérateurs font toutefois pression pour obtenir des dérogations. Ils utilisent notamment l'arrivée des objets connectés pour réclamer un assouplissement des règles. La mesure américaine, en tout cas, a une forte portée symbolique. Elle remet en cause le principe d'un Internet ouvert et accessible de manière égale. Et par conséquent aussi, l'accès de toutes et tous à l'information, qui est pourtant une condition essentielle à la démocratie, comme l'a souligné Maria Gabriel. La commissaire européenne à l'économie numérique était invitée cette semaine au Forum mondial des médias, organisé par la Deutsche Welle ici même à Bonn, en Allemagne.
Le développement du numérique, que nous appelons de nos voeux, doit se faire au service de tous les citoyens. Personne ne doit être exclu. Dès lors, la qualité de l'information accessible est un élément déterminant, condition sine qua non pour la réalisation par chacun d'entre nous de choix éclairés, qu'il s'agisse de choix individuels ou de choix présidant à notre avenir commun.
À la tribune du Forum mondial des médias, consacrée cette année au thème des inégalités dans un monde global, y compris numérique, la commissaire européenne a insisté sur la nécessité de fournir aux citoyens un accès à une information de qualité. Un défi à une époque où la neutralité des plateformes qui proposent des contenus est elle aussi remise en question par la généralisation des algorithmes.
Le développement d'Internet et la montée en puissance des médias sociaux sont porteurs de promesses pour une société plus démocratique et plus inclusive. Pourtant, dans les faits, les plateformes en ligne sont bien souvent un outil permettant la propagation à grande échelle et à une vitesse inégalée de la désinformation. Ce point me préoccupe, d'autant plus que ce processus peut se dérouler via l'utilisation d'algorithmes sans intervention humaine.
L'Union européenne veut inciter les plateformes de réseaux sociaux, mais aussi Google, à modifier leurs algorithmes pour rendre plus visibles les contenus émanant de médias traditionnels, avec un double effet, combattre la propagande qui emploie tous les moyens pour atteindre un maximum d'internautes et restaurer un semblant de neutralité dans l'accès à l'information. Un code de bonne conduite sera présenté d'ici septembre. Parallèlement, Bruxelles veut renforcer les compétences des jeunes en matière d'initiation aux médias pour leur permettre d'exercer un regard critique sur les informations qu'ils reçoivent.
Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome.
Vous écoutez toujours Vue d'Allemagne et on change radicalement de sujet pour se tourner vers la Belgique voisine. Le 29 mai dernier à Liège, aux alentours de 10h30 le matin, un individu a tué de sang-froid deux policières et un jeune homme avant d'être lui-même abattu par des policiers. L'attaque a été revendiquée le lendemain par le groupe État islamique. L'identité de l'assaillant a elle aussi été révélée. Benjamin Herman, connu des services de police, réputé ultra-violent et en congé carcéral au moment des faits. Jusqu'ici, toutefois, il n'avait pas donné de signe de fanatisme religieux. C'est en prison que le délinquant belge de 31 ans se serait radicalisé. Son acte a relancé le débat sur la radicalisation des jeunes, notamment en milieu carcéral. Écoutez ce reportage de Wendy Bashi.
Oui ? Un jour du mois d'août 2013, mon fils, le second de la fratrie, Sabri nous a quittés sans laisser de mots, sans laisser de lettres. Et on a su 4 jours après qu'il était en Syrie.
Salia Ben Ali est maman. Elle a 2 garçons et 1 fille. En 2013, son fils se rend en Syrie. Il meurt peu de temps plus tard. 5 ans après, la douleur reste intacte.
Je me suis sentie trahie par mon propre fils, qui s'était certes rapproché de l'islam. Et malgré le fait qu'il s'était rapproché de l'islam, j'avais une inquiétude par rapport au chemin qu'il avait pris pour apprendre. Il me parlait plus de frères que d'amis. Il y avait de plus en plus de critiques de notre façon de vivre au quotidien. Donc tout ça, ça me mettait une boule au ventre. Et quand il m'a dit « je suis en Syrie », c'est comme si je l'avais toujours su qu'il allait partir. Et c'est ça qui m'a le plus fait mal, c'est que j'avais des signes à l'époque, en 2013. J'avais des signes, mais j'avais pas le bon dictionnaire pour les traduire.
Aujourd'hui, la mère de Sabri sensibilise les jeunes et fait des animations en milieu scolaire et carcéral. Car c'est en prison que de nombreux jeunes délinquants se radicalisent, comme cela s'est passé, selon les premiers éléments de l'enquête, pour Benjamin Herman, l'auteur de la tuerie de Liège. Vincent Seron est professeur en criminologie à l'Université de Liège.
Bah oui, c'est une hypothèse que la personne soit radicalisée en prison, notamment par rapport au fait qu'elle ait rencontré au cours de ses précédentes années de détention ce qu'on peut qualifier de radicalisateur. Et malheureusement, c'est un élément dont on avait connaissance, mais dont on n'a pas finalement tenu assez compte, je pense, en termes de transfert d'informations. C'est compliqué de détecter quelqu'un qui est radicalisé ou qui se radicalise en prison, et à un moment donné, de considérer dans quelle mesure cette personne représente un danger pour la société. Et ici, je pense qu'on n'a peut-être pas suffisamment pris en considération.
Des difficultés de définir ce qu'est un détenu radicalisé. Mais au fond, comment cela se passe-t-il en prison ?
Il ne faut pas croire que les personnes qui sont radicalisées sont uniquement celles qui ont été condamnées pour des faits de terrorisme. Il y a effectivement des personnes condamnées pour de tels faits et qui se radicalisent ou qui sont déjà déradicalisées. Et puis vous avez une série de personnes qui ont été condamnées, comme c'est le cas de l'auteur de l'acte de Liège, pour des faits de vol, vandalisme, et qui par la suite se radicalisent en prison. Généralement, on a des personnes plus vulnérables, des personnes qui parfois sont dans un statut de précarité, qui sont approchées par d'autres personnes ou d'autres groupes à travers des avantages de confort. La prison est un milieu extrêmement difficile à vivre et ça peut être une porte d'entrée, une porte d'accès pour ces radicalisateurs.
En Belgique actuellement, 2 prisons disposent de sections pour la déradicalisation, on les appelle les 2 RADEX. Il y en a une à Ittre, en région francophone, et une autre à Hasselt, en région néerlandophone. Elles existent certes, mais pour Vincent Seron, ce n'est pas suffisant. Il faudrait des programmes beaucoup plus élaborés.
À l'heure actuelle, il n'y a pas grand-chose. Pour la partie francophone belge, la Fédération Wallonie-Bruxelles a un ensemble, CAPREV, qui s'occupe justement des détenus qui sont radicalisés ou en voie de radicalisation. Mais la grosse difficulté, c'est que cette institution ne peut travailler qu'avec des détenus qui sont demandeurs. Et donc on se retrouve confronté finalement à un nombre de détenus très marginal à traiter. Et donc les autres détenus qui n'en font pas la demande ne font pas l'objet d'un traitement particulier, en ce compris dans les ailes dédiées des RADEX à ITRE ou à CELT pour la partie néerlandophone. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait quelque chose de véritablement construit et concret dans ce type de section, d'une part, et d'autre part, dans les autres établissements pénitentiaires, il n'y a pas de projet plus construit non plus.
Une approche au cas par cas des différents détenus, mais aussi un ancrage fort à donner à cette thématique, c'est du moins ce que pense aussi Salia Ben Ali, la mère de Sabri.
Mes activités, c'est dans les écoles, j'ai fait quasi toutes les écoles en Belgique, mais c'est surtout dans les IPPJ, donc c'est les institutions de protection de la jeunesse. Mais les jeunes, ils ne veulent pas entendre les aumôniers et les imams. Ils sont encore dans une perspective où tous ces gens-là ne sont pas des bons musulmans. Parce qu'ils travaillent pour l'État. Ces jeunes-là, ils ont besoin d'un programme, je veux dire, à la carte. On ne peut pas travailler avec un menu général, ça c'est pas possible.
Difficile d'avoir un menu général, et pourtant, selon les services de renseignement belges cités en 2017 par la presse, 450 détenus sont considérés comme radicalisés. Il reste encore des risques et énormément de travail à faire.
C'est déjà la fin de ce magazine. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Comme toujours, rendez-vous sur notre site dw.com/français dans la rubrique médiathèque pour réécouter toutes les émissions ou vous abonner au podcast de Vue d'Allemagne. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss !